Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus obligatoire pour les personnes contaminées par le Covid-19 de se mettre en quarantaine pendant une semaine. La nouvelle directive sanitaire du gouvernement préconise seulement de rester à l'isolement pendant 5 jours. Par la suite, les entreprises sud-coréennes ont aussi atténué leur règlement de prévention. Samsung Electronics a notifié la semaine dernière qu'à partir de juin, les employés atteints du virus devraient être confinés seulement 3 jours. Il n'est plus obligatoire de subir un test de dépistage après avoir visité un pays étranger, ni de porter un masque dans les centres hospitaliers et les pharmacies situées au sein de l'entreprise. Quant au groupe SK, la directive varie selon les filiales. SK Hynix a levé complètement l'obligation du confinement des travailleurs infectés, alors que SK Innovation a pris la même mesure, mais conseille de télétravailler jusqu'à ce que les personnes malades retrouvent leur santé. Hyundai Motor, de son côté, maintient pour le moment la mesure de congé obligatoire de 7 jours en cas de contamination, mais envisage de la revoir. Enfin, LG Electronics supprimera le congé de 2 jours offert aux personnes qui viennent de se faire vacciner contre le Covid-19. Il est préconisé aux employés infectés et ceux qui ont un faible système immunitaire ou une maladie sous-jacente de porter le masque. Le retour à la vie normale est salué par beaucoup de Sud-Coréens, mais certains employés regrettent de devoir arrêter de travailler à domicile et devoir se rendre au bureau tous les jours. Pour réduire ce stress, bon nombre de sociétés ont renforcé le système de bien-être de leurs travailleurs. Par exemple, le grand magasin Hyundai Department Store propose le programme Workstation, néologisme composé de work et vacation, à savoir travail et vacances en français. Les employés de 1 à 8 ans d'ancienneté peuvent travailler pendant une semaine depuis l'île méridionale de Jeju ou à Gangneung, ville située sur la côte est, et l'entreprise prend en charge les frais de leur hébergement et ainsi que le coût de l'espace de coworking. Quant à Lotte Department Store, il a augmenté le nombre de apart hotels que ses employés peuvent louer à un prix réduit à 9 contre 7 le mois dernier pour qu'ils puissent mieux profiter de leurs vacances. L'enseigne de produits de beauté Olivian a pour sa part élargi le congé créatif pour les employés qui fêtent leurs 3, 5 et 7 ans d'ancienneté. Auparavant, il était disponible seulement tous les 5 ans d'ancienneté cumulés. Certaines firmes mélangent le télétravail et le travail au bureau. Le portail internet Naver a annoncé, au début de ce mois-ci, maintenir le système Connected Work qui permet aux salariés de choisir librement leur horaire et leur lieu de travail. Dans le groupe de télécommunication SK Telecom, il est toujours possible de travailler depuis la maison une fois par semaine. La piété filiale est une valeur fondamentale dans la société sud-coréenne, basée sur le confucianisme. Néanmoins, dans la société moderne où la famille nucléaire est devenue une nouvelle norme, il n'est pas toujours facile de bien s'occuper de ses parents. Afin de promouvoir les vertus du respect pour les aïeuls, la municipalité de Séoul a décerné une distinction à 34 personnes qui prennent soin de leurs parents ou grands-parents âgés de plus de 100 ans. La première édition de la cérémonie de récompense a été organisée hier à l'hôtel de ville de Séoul par l'Association des seniors de Corée. Le maire Oh Se-hoon et le directeur de la commission de la santé et du bien-être du conseil municipal Kang Seok-ju y ont assisté. Parmi les lauréats, Lee Eun-hee s'occupe de sa grand-mère de 108 ans depuis plus de 20 ans. Ses symptômes de démence se sont récemment aggravés, mais Lee et sa famille ne comptent pas l'envoyer dans un EHPAD et espère rester avec elle jusqu'à son dernier souffle. Kim Tae-hyun, quant à elle, s'occupe de sa mère de 110 ans. Cette dernière souffre de plusieurs maladies chroniques comme la démence, le diabète, l'hypertension et l'asthme. Ses proches lui conseillent de l'interner dans un établissement. Mais quand elle pense à l'amour que sa mère lui a donné pendant son enfance, c'est un choix impensable. Comme sa mère est assez âgée, elle veut passer le plus de temps possible avec elle. Pour Park Ong-nae, cela fait 20 ans qu'elle s'occupe de sa belle-mère qui a soufflé ses 102 bougies cette année. C'est aussi elle qui ramène de l'argent à la maison parce que son mari a des séquelles suite à des complications liées au diabète. Enfin, Seo Go-yeon, 84 ans, prend en charge sa belle-mère de 102 ans avec sa femme depuis 50 ans, alors qu'il a lui-même un handicap moteur. Selon Kim Sang-han, directeur du bureau des politiques de la protection sociale de Séoul, l'histoire de chaque lauréat a ému beaucoup de personnes et la municipalité s'efforcera de transmettre la culture de la piété filiale aux nouvelles générations. Passer plusieurs coups de téléphone peut désormais être considéré comme un acte de harcèlement, même si le destinataire n'y a pas répondu. La Cour suprême a récemment cassé le jugement de la 12e instance concernant une affaire impliquant un Sud-Coréen qu'on nommera Monsieur A, accusé d'harcèlement et l'a renvoyé au tribunal du district de Busan. L'histoire remonte à octobre 2021. Monsieur A a demandé à sa petite amie de l'époque de lui prêter 10 millions de won, soit environ 7 000 euros, pour son business. Celle-ci a refusé et a bloqué son numéro de téléphone. Elle a alors appelé 29 fois en utilisant le portable d'autres personnes jusqu'au 26 novembre. Il lui a aussi envoyé des dizaines de messages de menaces en disant que cela fait plusieurs jours qu'il est en train de la chercher et qu'il verra ce qu'il fera d'elle. A été accusée pour harcèlement criminel. Cette législation interdit de transmettre à quelqu'un de messages écrits, sonores ou vidéos qui lui provoquent de l'anxiété ou de la peur via des appels téléphoniques, des réseaux de communication ou d'autres moyens. Le tribunal de première instance l'a jugé coupable et l'a condamné à une peine de prison de 4 mois et à suivre un programme de traitement de 40 heures. En 12e instance, le juge a maintenu la punition de l'emprisonnement mais a estimé que ces coups de téléphone ne constituent pas un harcèlement. En cause, la destinataire n'y a pas répondu et le message de l'appel manqué qui s'affiche sur le téléphone de la victime n'a pas été écrit par le prévenu. Cependant, la plus haute juridiction a rejeté cette décision. Selon elle, les coups de fil répétitifs ont effrayé la victime à un point de l'empêcher de mener une vie quotidienne. Et bien que cette dernière n'ait pas répondu, ce sentiment de peur restait le même. Le juge a déclaré que si on ne reconnaît pas le harcèlement du fait que les appels étaient manqués, cela conduit à un jugement reposant sur des circonstances fortuites et réduit excessivement le champ d'application des sanctions. Notre prochaine nouvelle concerne un groupe de course à pied lancé par la municipalité de Séoul. En attendant, faisons une petite pause musicale avec Running to You, interprété par NCT 127.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Il y a une semaine, le 25 mai dernier, à 19h, une soixantaine de Sud-Coréens en tenue de sport se sont rassemblés sur la place Gwanghwamun, en plein centre de Séoul. Parmi les employés qui se dépêchaient de rentrer chez eux, certaines personnes s'étiraient, suivant les indications d'un coach, et criaient avec enthousiasme « Allez, Chilgu, Chilgu !» Ce sont des membres du club de running de Séoul, Chilgu, Chilgu. Chilgu signifie les chiffres 7 et 9 en coréen, car il court entre 7h et 9h du soir tous les jeudis. Chaegu a aussi une prononciation similaire avec le mot 친구 qui veut dire ami en coréen. Faire un footing à plusieurs est une bonne occasion pour tisser des liens d'amitié. La municipalité de Séoul a lancé ce programme de running en groupe en août dernier à l'occasion de la rénovation de la place de Gwanghwamun. Cette année, il se déroule aussi à la place de Talbit dans le parc du fleuve Han de Panpo. Les inscriptions sont ouvertes pour tout le monde jusqu'au 19 octobre. L'ancien athlète Chang Ho-jun guide les coureurs en corrigeant leur position et des kinésithérapeutes les accompagnent pour la sécurité. Les photographes professionnels Hwang In-ho et Yi-hyun immortalisent ces moments de plaisir et d'adrénaline. Comme le running se passe en plein centre-ville, la municipalité vérifie chaque semaine les éventuels empêchements, comme les travaux ou les manifestations, et modifie le trajet. La course, il y a une semaine, a vu un invité spécial y prendre part, le maire de Séoul. En effet, Oh Se-hoon a affirmé vouloir créer une ville vivante et dynamique. Il estime que si les citoyens prennent ainsi bien soin de leur santé en courant, la Corée du Sud deviendra un pays à l'espérance de vie fortement élevée. Les participants ont parcouru 5 km en passant par le tunnel de Yulgok, le quartier de Jongno et la rivière Changgyetan, avant de revenir sur la place de Gwanghwamun, où a également fait tout le parcours. Han Yun-ha, 28 ans, qui a participé à ce footing pour la première fois, a témoigné au quotidien Dong-Ha-Ilbo qu'il pouvait courir plus facilement grâce à l'encouragement des citoyens qu'il a croisés. Yuna, quant à elle, a indiqué que c'était formidable de faire du sport en appréciant le beau paysage nocturne de Séoul. Le directeur du département du tourisme et du sport de la municipalité, Kim Yong-hwan, a incité à la participation de plus d'habitants en expliquant que des parcours spéciaux seront mis en place en s'adaptant au changement de saison. Et avant de le clore, l'édition de ce jeudi 1er juin, nous vous proposons de faire la connaissance de Olivier Kiskater, un policier belge amoureux de la Corée qui a récemment accordé un entretien téléphonique à Ouayang.
Olivier, bonjour. Vous êtes commissaire à la police fédérale de Belgique. Pour commencer, pourriez-vous brièvement nous parler de votre travail ?
Alors, mon travail actuel consiste à être éditeur d'un programme de télévision qui s'appelle Contact, qui existe depuis les années 70, 70 comme on dit en France, qui est un programme donc qui fait de la sécurité routière. Mais j'ai aussi une fonction plus générale de prévention en matière d'accidents et donc je participe à des émissions radio aussi, je rédige des articles. Bref, mon travail est très orienté sur la prévention routière et l'éducation au code de la route.
Alors, racontez-nous un peu vos premiers pas dans le monde des médias et quelles sortes de conseils donc donnez-vous à la population ?
Alors, mes premiers pas, ils remontent aux études, puisque j'ai étudié le droit. Mais ensuite, j'ai fait un post-graduat en communication et journalisme parce que je trouvais plus intéressant la communication, le domaine de la communication que celui du droit pur. Plus tard, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai travaillé comme journaliste sportif dans un premier temps, donc très loin de ce que je fais actuellement. Puis comme secrétaire de rédaction dans un magazine du secteur de la construction, donc là aussi très loin de ce que je fais maintenant. Et puis je suis entré à la police parce que plus jeune, j'aurais voulu faire l'armée et on engageait des personnes sur diplôme. Là, j'ai eu la chance d'entrer dans le service presse de la gendarmerie, ça s'appelait comme ça à l'époque. Il y a eu chez nous une grande réforme des polices. Et un peu plus tard, la place qui existait déjà, hein, qui était déjà pourvue par un collègue de présentateur à cette émission Contact, s'est ouverte et donc j'ai postulé, j'ai pu avoir l'emploi. Et donc voilà, les conseils qu'on donne sont des conseils évidemment sur comment appliquer les règles du code de la route, mais aussi on va plus loin en termes de prévention parce qu'on sait très bien que la prévention routière, ça ne s'arrête pas uniquement à la lecture pure et dure des articles du code de la route, bien entendu. Ce serait bien, mais ce serait trop simple.
Est-ce que c'est vrai que vous avez le surnom de Monsieur Sécurité ?
Mes collègues qui me précédaient ont eu tous ce surnom-là. Je l'ai eu aussi jusqu'en 2017. Je présentais alors encore l'émission. Maintenant, je reste éditeur du programme. Donc, je ne suis plus directement la personne qui présente l'émission. C'est une jeune dame qui le fait à l'heure actuelle. On a voulu rajeunir et féminiser le programme, ce qui est une bonne chose. Mais c'est effectivement le nom qu'on donnait à la personne qui occupait cette fonction jusqu'alors, parce qu'il existait aussi un monsieur météo à la radio et d'autres types de monsieur, entre guillemets. Une époque un peu machiste, hein, quand on y réfléchit, parce qu'il n'y avait pas de madame sécurité ni de madame météo.
Mais on vous reconnaît toujours dans la rue.
Oui, oui, oui. En tout cas, côté francophone, parce que vous le savez, la Belgique est un pays avec trois communautés linguistiques. Il y a une petite communauté qui parle l'allemand, germanophone, donc 100 000 habitants. Il y a presque 5 millions d'habitants francophones et il y a à peu près 6 millions et demi d'habitants néerlandophones. Ceux-là, évidemment, me reconnaissent moins ou peu. Ils ne me reconnaissent que s'ils regardent régulièrement la télévision en français, bien entendu.
Par exemple, si on est assis dans un café à Bruxelles...
Alors, j'ai parfois des gens qui me dévisagent. Alors, j'ai cet avantage ou cet inconvénient, je ne sais pas, que mon boulot se fait en uniforme, bien entendu. Quand je passe à la télévision, je suis en uniforme de policier. Donc, je remarque souvent que des gens se disent « je connais cette tête-là », mais on met un certain temps parfois à se rendre compte de qui je suis vraiment, parce que le fait que je sois en tenue civile, évidemment, change la perception qu'ils ont eue.
D'où vient votre intérêt pour notre pays ?
Alors l'intérêt pour la Corée du Sud est venu, comme beaucoup de personnes je pense, soit par la musique, soit par les dramas, soit par le cinéma. C'est souvent les portes d'entrée sur la culture coréenne. Et dans mon cas, ça a été des séries en fait. Il y a 5 ou 6 ans d'ici, je m'ennuyais devant ma télévision. J'en avais un petit peu marre des séries anglo-saxonnes. Les séries francophones sont rarement très emballantes. Et donc j'ai un peu cherché sur Internet des séries innovantes. Et je suis tombé sur un article qui disait « Essayez peut-être des séries venues d'Asie et de Corée en particulier, qui est très exotique pour nous. » Je pense que à l'inverse, si vous regardez une série européenne, ce sera aussi très exotique pour vous. Mais un exotique fascinant, je veux dire. Voilà, un exotique, pas simplement en disant « Waouh, c'est différent de chez nous, mais je n'ai pas envie d'y aller. » C'était plutôt « Waouh, c'est différent de chez nous, mais ça donne envie d'aller voir. »
Et c'est donc ça qui vous a poussé à gérer deux groupes francophones sur Facebook.
Alors là, c'est arrivé un petit peu par hasard. J'étais membre d'un groupe qui existe toujours, d'ailleurs, en même temps qu'une autre personne qui habite Paris, qui est une Coréenne qui s'appelle Lee Ma-jong, et qui, en tant que modérateur de ce groupe, on m'avait contacté pour l'aide, parce que je faisais souvent des commentaires sur ce groupe. On a été amené à se parler régulièrement. Et un jour, elle a eu envie de créer son propre groupe de cuisine.
Et vous connaissiez un peu notre cuisine ?
Oui, oui, moi je mange régulièrement coréen. J'ai la chance d'avoir un restaurant coréen à moins de 2 minutes de chez moi, qui est d'ailleurs de très bonne qualité. Maintenant que je suis allé en Corée, je peux dire effectivement que ce qu'on sert chez lui est vraiment très proche
c'est
de ce
formidable.
Qu'on peut trouver. Donc j'ai été rapidement administrateur dans ce groupe. Et puis plus tard, on a aussi lancé un groupe plus généraliste, qui parlait d'un peu de tout sur la Corée. Et là aussi, elle m'a demandé de faire partie de l'aventure. Et donc, je suis co-administrateur avec elle, avec d'autres personnes. Nous sommes à chaque fois c'est chaque fois un groupe de 7-8 personnes qui gèrent ces groupes.
Alors, quel est le sujet qui est le plus brûlant en ce moment sur les réseaux sociaux ?
C'est surtout les sujets sociétaux, parce qu'en termes de culture et ainsi de suite, je pense que l'image de la Corée est très très bonne d'une manière générale. Au niveau de la vie en société, il y a parfois des points, évidemment, qui occasionnent des réactions et des articles sur nos pages qui font débat. Je pense par exemple au taux de suicide des jeunes chez vous, qui est exceptionnellement haut. La Corée, évidemment, est plus sur un mode libéral, donc c'est très différent de la Belgique ou de la France, par exemple. Donc les filets sociaux sont moins importants, donc les gens pauvres sont vraiment avec beaucoup moins d'aide de l'État que chez nous. Je pense que ces points-là sont les points pour lesquels on envie moins la Corée, on va dire, et donc qui peuvent créer débat sur nos groupes quand des articles sont postés dans ces matières-là. Okay. Par contre, au niveau culturel, bien entendu, ça, ou au niveau des paysages, au niveau de la beauté du pays, je pense que ça se fait toujours l'unanimité chez nous.
Récemment, vous avez eu l'occasion de comparer un peu la circulation routière en Corée du Sud et en Belgique.
Eh bien, écoutez, au mois d'avril dernier, j'ai eu l'occasion de venir 11 jours pleins dans votre pays. Et lors de ce séjour, j'ai loué une voiture à Busan pour pouvoir faire la côte de Gojae, Dongyeong, Changnyeong. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, après avoir rendu ce premier véhicule à Busan, on a pris le KTX vers Gyeongju. Et là, j'ai à nouveau loué un véhicule pour pouvoir faire les différentes attractions touristiques qui sont parfois très éloignées du centre-ville. Donc ça, c'était à ces occasions-là que j'ai pu rouler dans votre pays.
Quels sont les comportements des conducteurs coréens?
Alors là, c'est ce qui m'a rendu les Coréens un peu plus humains, entre guillemets, à savoir que la société coréenne, d'une manière générale, est très très bien organisée, les gens sont très polis, font la file pour rentrer dans le métro, ce qui n'est pas le cas en Belgique, hein, où les gens s'agglutinent devant l'entrée et poussent pour entrer. Je me suis dit, ces gens sont parfaits. Eh bien, ils le sont un petit peu moins sur la route, et quelque part, ça les a rendus un peu plus humains à mon estime. Par exemple, les coups de klaxon sont quelque chose qu'on entend beaucoup. À Séoul, par exemple, ça klaxonne tout le temps. On dit parfois des Coréens, chez nous, en Europe, qu'ils sont un peu les Italiens de l'Asie. Mm-hmm. Eh bien, sur la route, ça se vérifie un peu. Ils ont effectivement un peu le sang chaud, un peu d'impatience. Donc, plus d'une fois, je me suis fait klaxonner dessus, entre guillemets, parce que je n'allais pas assez vite, parce que j'étais un peu trop hésitant. Ça arrive assez régulièrement. Mais voilà. Mais d'une manière générale, la Corée est un pays très, très bien organisé. Les routes sont en excellent état. L'infrastructure me fait penser à la Suisse, avec tunnels, ponts et ainsi de suite. Toujours en très bon état, très bien éclairé, très bien sécurisé. Donc, moi, je dis chapeau pour le réseau routier. Le conducteur coréen peut encore un petit peu s'améliorer, mais ça le rend plus humain.
Merci, commissaire, pour cet entretien et nous espérons vous recevoir lors de votre prochaine visite à Séoul. Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Lee Jin et Kim Hong-ju à la rédaction et au micro, avec Hwa Yang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.